le podcast qui t'aide à trouver ta voix. Je suis Julie Lagneau, experte comptable mémorialiste en quête de sens, et j'accompagne les étudiants de la filière expertise comptable à prendre leur envol. Je parcours la France à la recherche d'anciens étudiants en comptabilité et nous retraçons ensemble leurs doutes, leurs échecs, leurs expériences et bien sûr leurs réussites. Aujourd'hui, ils sont experts comptables, commissaires aux comptes, DAF ou encore contrôleurs de gestion, parfois même professeurs ou entrepreneurs. À travers ces parcours inspirants, j'espère te montrer que non, en compta, il n'y a pas qu'une seule voie. Bonne écoute! Ce podcast est rendu possible par la maison d'édition Vuibert qui t'accompagne dans la préparation des épreuves de DCG. Étudiant dans une école, en formation initiale ou en alternance, ou encore en candidat libre, Vuibert est la maison d'édition qu'il te faut. Leurs manuels conformes au programme officiel contiennent des exercices d'entraînement, des QCM interactifs, des exercices corrigés, des sujets type examen, des grilles d'auto-évaluation, bref, tout ce qu'il te faut pour maximiser tes chances de réussite à l'examen. Ils ont même créé un site internet spécialement dédié aux étudiants de DCG qui contient des sujets et corrigés supplémentaires pour t'entraîner, mais aussi les actualités de l'expertise comptable et même des vidéos avec les experts du Lab 50, l'observatoire de la profession d'expert comptable et de commissaire aux comptes. Pour y accéder, il te suffit de taper dcg.vuibert dans ta barre de recherche. Et maintenant, place à notre invité. Bonne écoute!
Donc un été, au mois de juillet, j'ai fait un emailing cette fois. C'était plus un mailing courrier, c'était par email. En fait, j'ai pris toutes les adresses mail de cabinets de Nantes et autour de Nantes. Je crois que j'ai fait la presqu'île aussi autour de Saint-Nazaire-Guérande, en disant voilà, je reviens en vacances dans 15 jours. Je veux remonter sur la région pour des raisons personnelles et familiales. Je suis dispo pour des entretiens. En une semaine, j'avais 7-8 entretiens planifiés pour mes vacances. J'ai fait les 7-8. Il y a deux cabinets qui se sont détachés. Un cabinet qui faisait que de la révision sur des grosses structures, mais avec beaucoup de déplacements, qui m'aurait plu dans l'état d'esprit, dans la nature des missions et tout. Mais comme je venais dans l'état d'esprit de fonder une famille, j'ai dit bah, « je ne prends pas, parce que si c'est pour partir de la maison, ce n'est pas la peine ». Et puis un cabinet plus traditionnel, même s'il y avait des choses atypiques dedans, avec artisans, commerçants, professions libérales, TPE, PME, un peu de commissariat aux comptes, quelques missions atypiques sur lesquelles pouvait y avoir de l'intérêt. Dans ce cabinet, il y avait le juridique, le social, la tenue, enfin vraiment tout ce qu'on connaît du cabinet standard, quoi. Une femme à la tête, et là, du coup, j'ai dit, bah banco, quoi. Moi, je vais dans celui-là. Donc, j'y vais. En parallèle de commencer, bah, on s'est mariés, on s'est dit on va avoir un bébé. Ah, tiens, bébé arrive très vite. Bon, bah, très bien, on est très contents. Enfin, très vite. C'était... J'avais 30 ans. Hein,
c'était prévu. Enfin, en fait, tu n'avais pas passé ton diplôme, mais c'était OK de
non,
se dire.
Non, mais j'avais l'objectif en tête de dire faut que ce soit fini avant que bébé n'arrive. Donc, en fait, j'étais déjà dans le fait de faire une nouvelle notice avec un nouveau sujet. Moins technique pour le coup et plus orienté satisfaction client et satisfaction salarié. En fait, le but était, j'ai expliqué la méthode de rémunération qu'on avait chez Philippe, en fait, et j'ai expliqué comment tu pouvais faire le lien entre la satisfaction client qui permet de facturer ses missions à valeur ajoutée parce que le client est satisfait, etc., et le fait de satisfaire tes salariés qui contribuent à la valeur de la boîte, puisque hormis les modes de management qui étaient pratiqués, tu avais aussi la méthode de rémunération qui permettait de faire ce qu'il fallait. J'y suis allée avec moins de pression par rapport au sujet. C'était un sujet qui m'animait plus. Tu sais, management d'équipe, management de clients et tout ça.
T'avais pas peur parce que sur les sujets orga, souvent on dit que c'est plus risqué.
Non, je me suis pas posé la question. Et puis l'autre truc qui fait que j'avais pas peur, c'est que je suis allée soutenir le 2 mai 2005 en étant enceinte de 8 mois. Donc, si tu veux, ma priorité était plus dans mon ventre que dans mon sujet qui était sur la table. Donc, je pense que j'ai été d'une zénitude, mais pas possible. Donc, en fait, ils pouvaient me dire, ce qu'ils voulaient. Ma priorité, elle était à 4-5 semaines derrière. Et en fait, j'ai eu mon fils le 31 mai. Et quand je suis rentrée de la maternité, il y avait les résultats dans la boîte aux lettres et j'étais diplômée. Donc, ouf! Juste sur le fil.
Et je rebondis par rapport à ce que tu disais tout à l'heure où tu étais tombée sur un jury qui était très un expert comptable qui était très juridique. Ça me fait penser, je sais pas si tu as déjà vu cette situation, mais il y avait une fois où j'avais assisté à un atelier sur l'entreprise libérée et première question, ah oui, mais comment on fait niveau droit du travail? Et pareil, cette année, enfin 2023 du coup, j'ai assisté à une conférence sur l'IA et direct première question dans la foule, mais la RGPD du coup, tu vois, c'est toujours le sujet, enfin c'est souvent le premier sujet avant de dire est-ce que c'est intéressant, est-ce que ça apporte de la valeur, est-ce que, en fait c'est, ouais mais du coup, est-ce que c'est légal? Et j'ai l'impression que c'est un réflexe très d'expert comptable.
C'est un réflexe pas que d'expert comptable, je pense. Je vais te citer un exemple. J'ai eu à échanger avec une société sur Nantes, qui est une société qui a été incubée dans un incubateur que je connais. Du coup, sa mission, c'est de faire partir les salariés à l'étranger, de s'occuper de tout, c'est-à-dire logement, coworking sur place, conditions juridiques de départ, etc. L'objectif étant que le salarié soit pas perdant en termes de rémunération, que du coup il fasse toujours le boulot pour lequel il était embauché au départ, mais qu'il puisse aller découvrir une autre culture, s'imprégner d'autres choses, etc., ce qui est bénéfique et pour lui et pour la boîte, et que la boîte de l'autre côté, ça lui coûte pas plus cher en fait. Et du coup, tout le monde est gagnant. C'est une boîte qui s'appelle Holy Working sur Nantes. Et en fait, les questions auxquelles ils sont confrontés, c'est des questions surtout par rapport au juridique, etc. En fait, les gens, ils mettent des freins par rapport à ça. Et quand je dis les gens, c'est plutôt les employeurs que les salariés, parce que les salariés, c'est plutôt une belle aventure à vivre. Et bah, du coup, eux, leur but, c'est de tout ficeler, justement, pour qu'il n'y ait pas de problème. Donc, c'est vrai sur l'IA, c'est vrai sur le sujet de mon mémoire, mais ça peut être vrai sur plein de choses, en fait.
Mais c'est le fait de toujours ramener ça à est-ce que c'est conforme, est-ce que c'est... je trouve que c'est un frein à la créativité aussi.
C'est
parce
un frein, mais j'ai l'impression que c'est assez français, ça. En français ou européen. Je ne sais pas si c'est nos origines latines, germaniques, j'en sais rien. Aux États-Unis, par exemple, tu as beaucoup moins cette culture. Tu es plus dans le « j'y vais, j'essaye et on verra après ». Alors, de temps en temps, ça change parce que tu as quand même de plus en plus de mise en cause devant des tribunaux. Mais tu as moins cette culture du légal et du juridique. Ouais.
Donc, tu obtiens ton DEC et c'est quoi la suite alors dans le cabinet ?
Alors, la suite, du coup, je ne me sentais pas les épaules pour être inscrite à l'ordre tout de suite. Donc, j'ai continué à être chef de mission, à avancer sur mes dossiers, etc.
Donc là, tu faisais que de l'expertise ? Tu avais les missions un peu atypiques aussi ou...
Non. Que expertise, mais un peu montée en puissance en termes de supervision, de technicité, etc. quoi. Et puis, donc on était en 2005. Fin 2007, je discute avec l'expert comptable qui m'emploie. Je lui demande mon inscription à l'ordre. En toute franchise, ne sachant pas que j'étais enceinte. Parce que je pense que j'aurais reculé si j'avais su que j'étais enceinte.
Donc, tu étais salariée et voulais... C'était pas dans une perspective d'association, c'était
pas encore.
Salarié.
Ça aurait pu être envisagé, oui. Parce que c'était une discussion qu'on avait eue dès qu'elle m'a recrutée. Là, c'était pas dans l'optique d'être associé, c'était vraiment expert comptable salarié, mettre un premier pied à l'inscription au tableau.
Surtout
que tu avais
aussi tes priorités niveau personnel, que ça te permette après potentiellement de t'associer.
Et donc du coup, on enclenche toutes les formalités et en fait, j'apprends que je suis enceinte de ma fille qui est née du coup en septembre 2008. Donc j'ai été inscrite à l'ordre et puis je suis partie en congé mat presque derrière. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, que ce soit pour mon fils ou ma fille, les conditions du congé maternité n'étaient pas celles de maintenant. Il n'y avait pas de maintien de salaire sur la totalité du salaire prévu. Alors, je crois que c'est la prévoyance qui prévoit ça maintenant. Donc, moi, j'ai perdu de l'argent à mes deux grossesses, en fait. Parce que les niveaux de rémunération que j'avais étaient au-dessus du plafond de sécu. Et à l'époque, c'était garanti qu'à hauteur du plafond de sécurité sociale.
Ça fonctionne comment ? Je crois qu'il y a un stade, si tu dépasses une certaine rémunération, après, c'est garanti.
Aujourd'hui, je ne pourrais pas te dire. Ouais. Je sais que ça a évolué et en faveur des futures mamans ou parents, parce que peut-être le congé paternité est aligné sur la même chose. Mais en tout cas, moi, à l'époque, à chaque grossesse, il a fallu que j'anticipe ce que j'allais perdre pour pouvoir me dire, il faut que j'aie ce qu'il faut par rapport à nos envies, notre niveau de vie, tout un tas de trucs. Donc déjà, ça a été une vraie réflexion. Donc,
charge mentale en plus, un stress.
Les deux grossesses, j'ai fini mes périodes fiscales. C'est un objectif pour moi.
Ça tombait.
Bah, Raphaël est né le 31 mai, il était prévu en juin. Donc en théorie, c'était un arrêt, je sais plus, c'était 15 avril, je crois, qui était prévu. Et puis Lucie, c'était grossesse pour naissance prévue mi-septembre. Alors Lucie, ça s'est pas passé tout à fait pareil, mais en fait, aux deux grossesses, j'ai fait du diabète gestationnel avec des fortes doses d'insuline. Et en fait, le stress, c'est un facteur aussi d'augmentation de la glycémie. Au premier, j'ai fini ma période fiscale, je suis allée faire une visite qui à l'époque se faisait à l'hôpital, parce que quand t'as trop d'insuline, t'es en grossesse à risque. Et là, ils m'ont engueulé, ils ont voulu me garder à l'hôpital en me disant « Mais ça va pas, vous avez vu toute l'insuline que vous prenez, vous devriez être arrêté depuis longtemps. » Encore une fois, je me suis pas trop écoutée, mais il n'y a pas eu de conséquences fâcheuses ni pour bébé, ni pour moi. À Lucie, du coup, je me suis un peu plus écoutée. J'aurais dû être arrêtée, je crois, en juillet. Et là, j'ai été arrêtée fin mai. Peut-être un peu plus profiter. Par contre, à Raphaël, j'avais pris mes congés derrière. Donc, je suis restée avec lui jusqu'à ce qu'il ait 4 mois avant qu'il aille à la crèche. Lucie, elle est née le 4 septembre et j'ai repris le boulot début novembre. Donc, elle avait 2 mois. C'était un petit peu rapide avec du recul. Maintenant, c'était le deal. J'avais des clients qui voulaient que je fasse leur bilan 30 septembre et pas que ce soit quelqu'un d'autre qui les fasse. Donc j'avais ça. Mais en fait, fondamentalement, je suis pas une maman de la maison. Je suis pas une maman qui reste. J'ai toujours travaillé. J'ai pas pris de congé parental les mercredis. Je suis une passionnée de mon job. Et par contre, j'ai toujours su accorder du temps à mes enfants sur des moments privilégiés. Quand ils ont été à l'école, qu'il fallait des accompagnateurs pour la piscine, je suis une ancienne nageuse, toujours j'ai été accompagnée. De la grande section jusqu'au CM2, j'étais dans l'eau avec les classes. Je compensais après sur d'autres périodes de la semaine, mais je l'ai toujours fait. Donc en fait, j'ai toujours été plus partisane du temps choisi et de qualité que d'un temps où je me serais sentie obligée de, parce que d'autres personnes le font, et qui ne m'auraient pas rendue heureuse, quoi.
Puis t'as aussi le temps où t'es là, mais t'es qu'à moitié là parce que genre t'es en train de faire autre chose.
C'est ça. Mais du coup, c'est quelque chose que je tiens à partager parce que à l'époque, il y a beaucoup de femmes autour de moi qui n'ont pas compris, qui m'ont dit t'es ambitieuse, t'es carriériste, enfin avec tout le côté négatif. Mais non, je savais ce qui m'animait, ce qui me faisait plaisir. Aujourd'hui, j'ai pas de regrets. Mes enfants, je les ai mis aux bons endroits pour avoir des gens qui s'occupaient d'eux. Ils ont appris plein de choses. Ils ont fait beaucoup de centres aérés. Mon fils a passé le BAFA. Il est animateur en centre aéré aujourd'hui. Et il trouve ça génial de retourner dans le centre aéré où il était petit en tant qu'animateur. Donc, ils sont tous les deux engagés sur de l'encadrement de jeunes, soit par de l'entraînement sportif, soit par le centre de loisirs. Enfin, voilà, ils ont été autonomes vite. Certains pourraient dire trop vite. Bah, moi, je trouve qu'aujourd'hui, dans leur parcours, c'est super. J'ai pas de questions à me poser. Ils savent où ils veulent aller. Ils comprennent comment fonctionne le système. Mon fils, quand je lui ai expliqué comment il devait chercher ses stages en cabinet vétérinaire pour pouvoir faire son dossier sur Parcoursup et faire qu'on le prenne pas que sur ses notes, mais aussi sur ce qu'il aura fait avant pour montrer l'intérêt qu'il en a. Au début, il m'a dit « Oh, maman, et tout ». J'ai dit « Si, si, tu fais et tu comptes pas tes heures, tu rechignes pas à ce qu'on te demande. De toute façon, ils sont passés par là avant toi. » Et je me rappellerai toujours, le deuxième stage, il l'a fait dans une clinique. Alors, le premier, c'était chez notre véto, découverte. En plus, qui fait plutôt les animaux de compagnie, type chien, chat, etc. Avec quelques petites particularités sur des opérations spéciales, mais c'est pas un truc d'urgence. Deuxième cabinet qu'il fait, c'est quelque chose où il y a de l'urgence et qui est plus loin de chez nous, en fait. Enfin, on a un peu plus de route pour l'emmener, aller le chercher. Dès le deuxième jour, je crois, il appelle, il nous dit « Vous venez pas me chercher à 5 heures. Il y a une super opération ce soir. Venez pas avant 8 heures. » Et là, je me suis dit « Ok, il a compris. » Et il a fait ça pendant les 2 semaines. Bah, résultat, les vétos étaient tellement contents qu'ils ont fait un truc qu'ils n'ont pas le droit de faire normalement. Ils l'ont fait participer. Alors qu'en fait, en stage, quand tu es au lycée, normalement, tu ne participes pas. Ben, il a pu participer à certains trucs, tenir certains instruments. Du coup, en échange, il leur a fait des photos pour mettre sur leur Insta. Enfin, tu vois, il y a eu un vrai quelque chose. Et je lui ai dit, dernier jour du stage, tu ramènes les croissants. Tu demandes une lettre de recommandation. Tu en as besoin pour Parcoursup. Tu en auras peut-être besoin pour un autre stage derrière. Et en fait, revenu de ce deuxième stage, il m'a dit « Maman, j'ai compris ce que tu m'avais expliqué quand tu m'as parlé du réseau. » Il m'a dit « Je sais que je suis en train de construire ce qui va me servir derrière. » Et en fait, là, il a appelé parce qu'il a besoin d'un stage sur sa première année. Ils lui ont dit « Mais Raphaël, la porte est grande ouverte, on t'attend avec impatience. » Donc en fait, je me dis « Est-ce que j'aurais pu leur donner les mêmes conseils, les mêmes clés ?» Tu sais, si j'avais été moins investie dans mon travail, je ne suis pas certaine. Donc, je n'ai pas de regrets, quoi.
Donc, tu as ton deuxième enfant. Tu restes dans ce cabinet où tu es salariée inscrite à l'ordre combien de temps ?
Alors, donc, Lucie, elle arrive en septembre 2008. Et en fait, fin 2009, j'apprends que le cabinet a été cédé ou va être cédé incessamment sous peu. J'étais dans la phase où j'étais en train de changer le logiciel en interne. On passait de CCMX à Koala, d'outils de gestion interne autres à intégrer à Koala. Et du coup, quand j'apprends ça, je suis un peu déçue, bien sûr. Et puis je me dis, c'est que mon temps est fini dans ce cabinet-là, quoi. J'ai pas d'animosité et tout. Hein. Moi, je pars du principe que quand les choses elles arrivent, c'est qu'il y a autre chose qui m'attend quelque part. Donc, sur le coup, on n'est pas content, mais il faut prendre les choses avec philosophie, puis pas rester sur le même sujet. Du coup, je me mets en quête et ce que je fais, c'est en Pays de Loire. Il y avait à l'époque, avant qu'il y ait Bamploi, nous, on avait un petit journal qui s'appelait le Tam Tam, qui a existé sous format papier quand je sortais de l'école au tout début et qui là a été sous forme d'annonce sur Internet. Du coup, je décide de déposer une annonce, mais de manière anonyme. C'est-à-dire, on ne sait pas qui je suis. Par contre, comme j'ai un parcours hyper atypique et des compétences atypiques, ceux qui me connaissent savaient qui avait déposé l'annonce. Bref. Du coup, il y a un expert comptable qui appelle l'ordre et qui dit « Je suis intéressé, mettez-moi en relation. » C'était un de mes profs d'école de commerce. Yves.
T'avais reconnu ou pas ?
Non, il n'avait pas reconnu. Et pourtant, quelques temps avant, il y avait un cabinet de recrutement qui avait fait circuler mon CV. Et là, il m'avait appelé en me disant « Gaëlle, fais gaffe, on sait que c'est toi, même s'il est anonymisé. Ça va se savoir que tu cherches, etc. Si tu ne veux pas, préviens le cabinet qu'il arrête. » Et là, il n'avait pas tiqué, parce que c'était en format plus réduit. Il n'y avait pas mon CV. Enfin, l'accroche n'était pas la même. Du coup, je vais le voir, on discute. Et là, cabinet atypique. Que de la location meublée. Il n'y a pas de dossier hors location meublée. Hein. Quand je dis que, c'est que. Donc que du particulier, panier moyen, pas plus de 500 euros par an. Par contre, un volume à traiter assez impressionnant. Là, à l'époque, ils étaient une équipe d'une douzaine. Ils devaient traiter 3000 clients. Quand j'ai quitté ce cabinet-là, on en parlera après, c'était une équipe de 90 et 12 000, 13 000 clients.
Donc, ça te changeait des autres cabinets.
Je me suis posé des questions. Hein. J'ai appelé Philippe, mon premier patron. J'ai dit, qu'est-ce que t'en penses ? Hyper spécialisation, tu le ferais, tu le ferais pas ? Il me dit, qu'est-ce qu'elle te dit ton intuition ? Mon intuition, elle me dit que j'ai bien envie. En plus, Yves était un prof que j'avais beaucoup apprécié quand j'étais à l'école et tout. Et à l'origine, il me recrutait pour venir signer du bilan. Et du coup, je voyais le côté technique quand même. Il y avait des spécificités, il me l'avait expliqué. Il m'avait bien mis en garde en me disant « t'as pas peur de t'ennuyer » et tout. Enfin, il avait rien caché du truc. Bah, j'ai dit « banco, je change. De toute façon, mon temps est fait dans l'autre cabinet, j'y vais. » Et ce cabinet, j'y ai passé 9 ans. J'ai signé du bilan, mais pas autant que Yves et d'autres experts comptables qui sont arrivés après. Mon rôle, il a plus été finalement d'assurer la sécurisation des dossiers avec des automatisations, du digital, du numérique. Dia Client, on l'a développé, mais je pense qu'on est le cabinet en termes de champ paramétrable créé qui a été le plus loin pour pouvoir automatiser d'autres choses derrière, dont le conseil. Il a fallu changer la façon de gérer les équipes, c'est-à-dire qu'on a mis une notion de pré-contrôle avant que les experts comptables contrôlent. Donc, on a créé des équipes de contrôleurs qui, du coup, a été désolidarisée de l'équipe de production. On avait des chefs d'équipe qui vérifiaient la cadence de production des bilans en période fiscale.
Un peu comme si on était dans une usine.
Chaîne, clairement. Dans Dia Client, on avait toutes les étapes d'avancée du dossier. Demande de documents, première relance, deuxième relance, relance en recommandé, qui dit qu'on met fin à la mission si on n'a pas les docs avant telle date. Tout ça, c'était piloté en reporting avec des tableaux sur lesquels je savais exactement qui en était où et où j'avais des alertes qui pouvaient être faites si ça avançait pas assez vite.
Et par rapport à ce que je connais de toi, est-ce que ça n'a pas posé problème à un moment enfin, au niveau de tes valeurs, tu vois, le fait que ça soit très usine, très chiffre, très...
Alors non, parce qu'on avait un niveau de conseil et de qualité de conseil qui était impressionnant. Si tu veux, ça c'était la face prod. D'un autre côté, ça permettait de recruter des gens qui étaient débutants, qu'on formait à nos méthodes, donc de donner leur chance à des gens qui n'avaient pas d'expérience. On ne prenait pas de niveau de diplôme au-dessus de Bac+3. On savait que nous, on n'aurait pas d'experts comptables stagiaires, ça ne les aurait pas intéressés, si tu veux. C'était trop monocorde. Quasiment pas de juridique, pas de paye, pas de thématique forte sur d'autres dossiers. Par contre, on pouvait prendre des BTS, des IUT, des gens qui avaient le DCG ou qui ne l'avaient pas en entier, et qui débutaient encore une fois, parce qu'on faisait de l'intégration. Ils arrivaient en octobre, ils avaient quasiment un mois où c'était de l'intégration. Formation, premier dossier facile, progression, tu vois.
C'est très processé, tu suis le process et normalement...
C'est ça. Maintenant, il te faut quand même un peu de jugeote parce qu'il y a quand même des cas particuliers. On ne s'en doute pas sur de la location meublée, mais il y a quand même des sacrés cas un peu savonneux. Du coup, donc, il y a eu tout ça à mettre en place. Parce qu'au départ, la philosophie, c'était de dire on prend des stagiaires sur la période fiscale qu'on ne garde pas forcément après. Mais finalement, on faisait changer les dates de clôture. Donc, est arrivé un moment où on avait du boulot toute l'année, même avec l'annualisation du temps de travail qu'on avait mis en place. Maintenant, socialement et humainement, ça avait des avantages. Quand il fait moche, que c'est l'hiver et qu'il fait froid, on leur demandait de bosser pas mal, des semaines jusqu'à 48 heures, mais où ils avaient de la flexibilité. Ils pouvaient commencer à 7 heures, ils pouvaient finir tard, et ils pouvaient venir le samedi s'ils avaient envie. Chacun prévenait de ce qu'il allait faire dans la semaine, mais pouvait être flexible là-dessus. Puisque nous, notre objectif, c'était le nombre de dossiers terminés à tel délai, en fait. Donc, t'es plus dans la même approche en termes de suivi de tes collaborateurs. On faisait pas de saisie des temps. Tu fais pas de saisie des temps sur des dossiers où tu vas en traiter 15 dans une journée, quoi.
Ça va te prendre plus de temps de saisir ton temps.
Quand tu fais les TVA tous les trimestres et que chacun a 200 TVA à sortir en une semaine ou en 10 jours, tu t'amuses pas à faire de la saisie des temps, quoi.
Bah, du moment que c'est fait...
Exactement. Le plus important, c'est l'objectif. Donc, tout ça a avancé bon an, mal an. On a détourné des logiciels qui étaient faits pour faire autre chose, pour nous aider à automatiser le conseil. On a créé notre propre logiciel pour qu'à terme, on n'ait plus d'affectation comptable à faire parce qu'on avait des erreurs, des fois, sur les comptes que les collaborateurs mettaient sur les écritures. Donc, on s'est dit, faut qu'on arrête de leur demander de mettre les comptes. On va leur demander de saisir des données dans des endroits particuliers. Nous, on aura identifié derrière dans quel compte ça doit aller. Donc, on a développé notre propre outil. Le calcul de résultat fiscal d'un loueur en meublé est un peu compliqué. Donc, pareil, on l'avait automatisé pour qu'il n'y ait pas d'erreur, si tu veux. Donc, tout ça avait été fait, plus une partie... Avant-vente, j'appelle ça, tout ce qui est, il n'y avait pas de site web, on a fait un site web, on n'avait pas de support de com, on en a fait. On a été sur des salons du patrimoine tous les ans, parler avec des conseillers en gestion de patrimoine qui, eux, nous envoyaient des dossiers. Donc, tu vois, un aspect plus relationnel, prescripteur, en fait, limite commercial.
Et tu étais salarié dans ce
cas-là ? Ouais, j'étais salarié, inscrite à l'ordre, mais salarié. Et puis, y a eu... les projets qui sont arrivés un peu en bout de course, moi qui aime le challenge, quand ça arrive en bout de course, je m'ennuie un peu après.
Quand ça tourne dans le quotidien.
La routine, j'ai peur de m'ennuyer. Et puis, il y a eu des changements au niveau du groupe auquel appartenait le cabinet, qui ont fait que je me suis dit, mon temps doit être fait. Et puis, on va peut-être me demander, par rapport à ces changements, d'aller encore plus loin sur ce que je dois demander aux salariés. Et je n'étais pas forcément prête à le faire. Donc du coup, j'ai fait le choix de dire je m'en vais, en fait. Donc, je suis partie en 2019, été 2019. Et là, du coup, grosse phase de décompression. Et là, je peux dire burn-out. Parce que là, j'ai mis au moins 9 mois à retrouver un niveau d'énergie que j'ai même pas retrouvé le niveau que j'avais avant, mais retrouver un niveau d'énergie acceptable.
On reparlera peut-être après du burn-out. C'est quoi les signes un peu qui peuvent alerter, que ce soit pour soi-même ou si on les voit pour d'autres autour de nous ?
Alors là, alerter, ça faisait déjà 4-5 ans que j'avais mes proches, mon mari, mes enfants par certaines réactions. La période fiscale, pour eux, ça s'appelle la période boulot pourri. Parce que sur la période fiscale, dans ce cabinet-là, c'était quand même assez sportif. On enchaînait parfois des semaines, il n'y avait pas de week-end, quoi. Donc, je parle expert comptable, hein, je ne parle pas collaborateur. Avec de la pression, avec des outils à maintenir, à mettre à jour. Passer le nouveau millésime de l'alias fiscale quand tu as X 1000 dossiers qui doivent passer, tu n'as pas la même pression que quand tu as un portefeuille où il y en a 50, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Et sans compter que j'étais quand même là aussi en support technique, aussi pour challenger. Yves est quelqu'un qui fouille les textes, donc il fallait être capable d'être en réaction sur l'interprétation. Donc c'était enrichissant, encore une fois, mais challengeant, mais fatigant. Donc en fait, il y a eu mes proches qui m'ont dit « Gaëlle, t'es en train de passer de l'autre côté, c'est pas bon, j'ai pas écouté. Hein. » Alors en plus, quand c'est ta mère, t'écoutes pas. Du coup, j'ai trouvé des subterfuges. Donc en fait, je me suis réfugiée dans le sport. Je suis allée faire du sport à 6h du matin, tous les matins.
Et tu te levais encore plus tôt ?
À 5h. Et alors ça avait un côté sympa, c'est que je prenais mon petit-déj au cabinet et que ceux qui commençaient à 7h et qu'ils savaient, ils savaient que c'était un moment privilégié pour venir échanger avec moi et de venir prendre le petit-déj avec moi. Donc ça a créé des moments sympas en termes de management. Mais en fait, je me suis réfugiée dans le sport à fond. J'avais du poids à perdre déjà. Et en fait, ça m'a mis une dose d'endorphine, mais un truc de fou. Donc là, pendant 4 ans, j'ai tenu avec ça en fait. Je me prenais mon shoot d'endorphine en allant au sport tôt le matin. Je déménageais tout dans la journée. Sauf qu'en fait, je ne me suis pas écoutée. Et finalement, quand je suis tombée encore plus fort. Un, je me suis fait mal au sport. Donc, je n'ai pas pu continuer à ce rythme-là. Et puis, du coup, une fois que tu es dans la pente descendante, tu as tout qui arrive. Et du coup, quand j'ai arrêté ce job-là, alors il y a eu une phase de vacances qui était de l'entre-deux parce que c'était sympa, j'étais en famille. Mais une fois que les enfants sont retournés à l'école, en fait, moi qui a toujours été quelqu'un qui me lève tôt, qui travaille tôt, qui est plutôt du matin, j'arrivais pas à me lever. Je pouvais même pas me lever pour regarder qu'ils prenaient bien leur car pour aller au collège. En fait, j'émergeais pour entendre qu'ils étaient partis et je me rendormais, je me levais pas avant 14 heures. Donc je faisais que dormir. Et même une fois que j'étais levée, mais je restais en pyjama, j'avais pas envie de sortir, pas envie de voir du monde. Ma tête, j'avais l'impression qu'elle savait plus réfléchir. Enfin, quand je dis ralenti, c'est même pire que ralenti, quoi. Même pas envie de gérer la maison ou la logistique de la maison. Moi qui suis quelqu'un qui est plutôt maniaque. Et ça, ouais, dur, parce que c'est arrivé au moment où il fallait aussi que je réfléchisse à qu'est-ce que je fais. Est-ce que je cherche un job salarié ? Est-ce que j'ai envie d'un job salarié en vue d'une association ? Est-ce que je crée ? Qu'est-ce que je crée ? Donc compliqué. Malgré tout, je suis allée au congrès à Paris en septembre. J'ai revu des gens que je connais.
En quelle année, ça ?
C'était en 2019. J'ai revu des gens donc, que je connaissais. J'ai rencontré des gens que je connaissais pas. En particulier, un qui s'appelle Olivier.
Sanchez ?
Olivier Lagrandeur. C'est quelqu'un qui n'est pas expert comptable, mais qui était venu pour parler de la data et de l'IA déjà à l'époque à ce congrès, qui est nantais. Et voilà. Et puis, de fil en aiguille, pas d'annonce en salarié, en tout cas, que des annonces sur « oui, vous allez chapeauter une équipe d'expertise, vous serez en charge de la relation client et de la supervision ». Enfin, je me suis dit, non, ça, j'ai pas envie, quoi. J'ai fait tellement de choses. J'ai fait tellement de choses depuis valoriser mes autres compétences, quoi. En plus, quand je disais que je voulais plus un job salarié sans perspective d'association, je fermais des portes, si tu veux.
Ah ouais, mais pourtant, j'ai l'impression que justement, on dit, tu sais, qu'il y a forcément, vu qu'avec la pyramide des âges, il y a beaucoup d'experts comptables qui cherchent à revendre.
Avec mon atypisme, les choses que j'ai envie de faire qui ne sont pas forcément le tradit. Je pense mon tempérament aussi. Je n'ai pas ma langue dans ma poche, donc je ne suis pas sûre que je sois une associée facile. Enfin, voilà, tu vois, bref, à ce moment-là, rien qui toque à ma porte. Du coup, de fil en aiguille, je dis c'est bon, je vais créer mon cabinet. Par contre, je le crée comme j'ai envie. Et du coup, j'avais l'objectif de dire... révision, À la rigueur, je veux bien un outil commun sur lequel j'aide le client à faire sa gestion, mais je ne veux pas de tenue en tant que telle. Ça, c'était le premier point pour une partie plus standard. Donc, mais ça, client... j'en veux pas plus de 30%.
Donc, c'est le client qui saisit sur un
logiciel... Qui fait... D'abord, il ne saisit pas, en fait. Il ne faut pas raisonner comptable. Comment tu le vends à ton client ?
Non, mais tu lui dis,
tu as besoin de gérer ta boîte, donc tu as besoin de faire tes devis, tes factures clients, etc. Je te mets un outil à disposition. Ensuite, tu as besoin de suivre ta trésor, parce que tu es un dirigeant responsable et que tu veux regarder où tu vas. Pour suivre ta trésor, il va bien falloir que tu suives tes factures fournisseurs et que tu saches à quelle date d'échéance elles sont et comment ça va se positionner au niveau trésorerie. Okay ? Jusque-là, on n'est que dans de la gestion. Je ne t'ai pas demandé de l'affecter comptablement. Je te dis juste que tu en as besoin pour gérer. Bah écoute, tu vas le faire sur un outil qu'on aura en commun. Et du coup, la compta, elle se fera derrière. J'aurai besoin de temps en temps de venir ajuster certaines choses. Mais une fois qu'on aura paramétré le démarrage, ça devrait rouler. Et pour ça, j'avais choisi QuickBooks. Voilà. Pour tout te dire. Pourquoi ? Parce que sur d'autres outils, j'ai des positions un peu arrêtées sur le fait que j'ai pas envie de devenir comme les banquiers qui te vendent de l'assurance, du téléphone, etc. Moi, je veux pas vendre du logiciel à mes clients. Donc, je veux que les clients ils soient en direct sur leur logiciel et que si demain, ils décident de me quitter, ils puissent partir avec. Parce que s'ils décident de me quitter, c'est que j'ai mal fait mon taf. C'est pas une question d'outils. Donc... C'est ma philosophie, c'est comme ça que je le conçois. Donc QuickBooks répondait à ça. C'était eux qui souscrivaient et du coup, ils pouvaient me quitter avec leur compta demain s'ils en avaient envie et que j'avais mal fait mon job. C'est challengeant comme position, mais c'était mon choix. Donc ça, c'était pour la partie plus traditionnelle. Et de l'autre côté, j'avais deux pistes. Je sais que je suis expert métier de l'expertise comptable. Donc si des éditeurs de logiciels ont besoin d'aide quand ils développent leurs outils, etc., c'est une aide que je peux leur apporter.
Du consulting ?
C'est ça, de l'apport de l'expertise métier à des éditeurs de solutions dans la gestion, etc. Ça peut aller loin, du coup, parce que j'ai quand même fait le tour à 360 des ERP et tout au long de ma carrière. Et puis l'autre aspect, c'était les experts comptables, je pense qu'ils n'ont pas conscience de la transformation numérique qui arrive dans leur cabinet. Et ça, c'est quand même quelque chose que j'ai mené pendant 9 ans. Sur le cabinet de location meublée. Donc, non seulement je connais les éditeurs, je connais les outils, etc., mais j'ai fait bouger les habitudes de collaborateurs, j'ai accompagné de la transformation, etc. Ben, pourquoi je ne le ferais pas pour les cabinets, en fait ? Tu as plein de structures qui n'ont pas les moyens financiers d'avoir quelqu'un à temps plein pour ça, qui n'ont pas la nécessité non plus, parce que c'est quelque chose qui est pas forcément, qui va pas forcément perdurer dans le temps. Tu peux aussi déceler des collaborateurs qui ont ces appétences-là quand toi, tu viens, parce que ton œil le voit, parce que tu es habitué à ça, là où l'expert comptable n'aura pas décelé. Donc, je me suis dit, j'ai plutôt une offre consulting cabinet à faire sur cet aspect transformation. Donc, je me lance. 1er janvier 2020. Qu'est-ce qui se passe en mars ? Covid. Super quand tu te lances.
Et tu étais impactée, toi ? Parce que tu étais quand même déjà digital.
J'étais très peu LinkedIn à l'époque. J'ai développé LinkedIn beaucoup à l'époque du Covid. Et de toute façon, je savais qu'il fallait pas que je redémarre trop vite parce que sinon, j'allais pas récupérer de mon état de fatigue, en fait. Donc finalement, le Covid est très bien arrivé parce que mes enfants étaient à la maison. Parce que comme mes enfants, je l'ai déjà dit, ils sont autonomes, responsables et tout. Eux, ils ont très bien compris que s'ils se mettaient à 8 heures devant leur ordinateur, à midi, ils auraient fini tout ce qu'ils avaient à faire. Ils pourraient jouer à la Xbox, faire du sport dehors, une demi-journée au lieu d'une journée. Du coup, j'ai pas eu le choix. Ils ont imposé ce rythme-là à la maison de 8 heures le matin. J'en ai deux devant leur ordi qui bossent, etc. Donc, petit à petit, moi, ça m'a remis dans le rythme. Et puis du coup, comme j'ai découvert les réseaux sociaux, bah, je me suis fait un réseau social, des nouvelles relations. J'ai axé ça autour du numérique parce que c'était ce que je voulais développer. Et puis en même temps, le fameux Olivier que j'avais rencontré au congrès à Paris, qui est quelqu'un qui avait été missionné par le Conseil national pour faire un plan de route à 5 ans sur l'usage de la data, de l'IA, etc., qui est nantais, me contacte et me dit « Gaëlle, j'ai une idée d'application pour les experts comptables. Est-ce que ça te dit d'être de la partie, d'être cofondatrice de la start-up avec Frédéric, qui était plus sur la partie commerciale et pilotage d'une plateforme SaaS, en fait. Et moi, on lance ce projet-là. » Je lui dis, bah écoute, parle-moi-en un peu plus. Enfin, on a commencé à faire des réunions de travail. Et puis, en fait, en novembre, enfin fin octobre, début novembre, on a créé la structure. Et du coup, on a vécu, j'ai vécu une aventure start-up incubée dans deux incubateurs différents. Start-up qui doit pitcher, qui doit aller challenger des choses, qui doit aller chercher des fonds. Je me suis trouvée dans des positions où j'aurais jamais cru que j'irais. Et jusqu'à ce qu'on arrive en septembre 2022 au congrès à Paris, sur le stand du Village Connecté, puisqu'on avait intégré le Village Connecté, l'application étant une application que tu pouvais mettre dans Teams, tu sais, qui était, tu pouvais l'utiliser sur Internet, mais tu pouvais aussi la mettre directement dans Teams. Et le but du jeu étant de déverser des fakes dans un premier temps, dans le futur, on aurait pu mettre toutes sortes de données, en fait, d'autres provenances du moment qu'elles étaient validées, et de dire dans Teams, soit en langage naturel par écrit, soit à la voix, t'interroges tes data.
Tout ça. Avec de l'IA ?
Bah, bien sûr. Et du coup, tu te mets dedans et tu dis, bah, donne-moi les 10 ans de chiffre d'affaires, parce que tu n'as pas de limite, du coup, quand tu es en mode base de données. Donne-moi les 10 ans de chiffre d'affaires de tel client. Du coup, il te les donne en chiffres, dans un tableau Excel que tu peux exporter, etc. Partager avec ton client sur Teams. Ah bah, je l'aimerais mieux en graphique en barre. Pouf, en deux secondes, tu avais le graphique en barre. Ah, puis si tu pouvais me faire le prédictif, pouf, tu avais le prédictif qui arrivait. Tout ça, tu pouvais le partager en instantané à ton client. En fait, l'idée de base, c'était de dire l'expert comptable, faut pas qu'il perde du temps sur du traitement de données, parce que la donnée qu'il a en fake, elle est fiable, donc tu n'as pas besoin de repasser du temps à valider. Faut pas non plus qu'il passe du temps à faire des filtres, des treillis, des graphiques et des machins. C'est où qu'il est important, l'expert comptable ? Il est important quand il est face au client et qu'il est capable de discuter avec lui des choses, et en particulier du futur. Donc il ne faut pas qu'il perde du temps ni sur le passé, ni sur le fait de pouvoir avoir des chiffres sur lesquels s'appuyer quand il discute avec le client. Et du coup, on avait mis ça dans une application. Comment te dire qu'on est arrivé au moment où tout le monde parlait de la facture électronique et où je pense qu'on était un peu trop rapide pour les experts comptables.
Le time to market.
Et n'est-ce pas ? Et en fait, on avait voulu une application, ça c'est en analysant après, mais on a voulu une application qui était trop parfaite. Moi, parce que je ne voulais pas présenter quelque chose à mes confrères qui n'étaient pas à la hauteur, on va dire, de mes compétences sur le numérique et tout ça. Olivier, il avait son côté technique où il ne voulait pas présenter quelque chose qui n'était pas vachement abouti. Et la partie commerciale où c'est plus facile de vendre quelque chose quand il est presque parfait, si tu veux. Sauf qu'en fait, quand tu n'as pas le marché, tu ne le vends pas, quoi. Donc, bah, dépôt de bilan.
Et tu penses que ça n'a pas fonctionné parce que ouais, le marché n'était pas prêt, enfin, ils ne sont pas assez sensibilisés, ils sont sur d'autres sujets en ce moment.
Tu as d'autres choses à faire avant, en fait, je pense. En particulier sur des cabinets qui existent depuis longtemps, qui ont un process qui est défini, qui ont des choses qui sont installées. En fait, tu ne peux pas aller aussi vite à cette partie-là. Il y a des étapes à respecter. Je pense que la facture électronique va y aider parce que ça t'oblige déjà à revoir l'intégralité de ton cabinet, de ta stratégie, etc. Si tu le fais, j'ai envie de dire correctement, la facture électronique, c'est pas juste je choisis une PDP et je mets mes clients dessus et mon cabinet aussi. Ça va plus loin que ça. Alors là, après, c'est la référente facture électronique de la région qui parle, mais c'est une vraie gestion de projet. C'est quelque chose qu'on réfléchit, sur lequel je pense qu'il faut commencer par mettre un CRM en place, on en parlait tout à l'heure, dans son cabinet, s'il n'existe pas déjà. Pourquoi pas un système d'information RH, SIRH, parce qu'il va falloir aller regarder et challenger les compétences des collaborateurs, construire des plans de formation si on veut les faire évoluer. Faut challenger ses offres, faut savoir sur quoi on veut aller. Est-ce qu'on veut faire du full service ? Est-ce qu'on veut pas ? Comment on veut assister le client ? Et une fois que tu as fait tout ça, tu es capable d'aller dire quel outil tu vas prendre, parce que cet outil, il va te permettre d'avoir quelque chose d'efficace et en termes de rentabilité et en termes de production. Mais tu ne peux pas dire juste « je choisis tel PDP ».
Mais est-ce qu'on ne passerait pas du coup d'un cabinet à une entreprise pour celles qui ne le sont pas encore ?
D'un expert comptable profession libérale à un entrepreneur, je pense.
Oui.
Sauf que le cap, il n'est pas si facile à passer. Donc, le produit, clairement, ceux qui sont venus le voir au congrès, il y en a plein qui avaient les yeux qui brillaient, qui, sur le coup, t'auraient dit « Ouais, j'adore, je prends ». Sauf qu'en fait, dans leur quotidien, pour le mettre, ça, c'est aussi une problématique qu'on a identifiée. c'est que tu prends des gens comme des My Company Files, des gens même comme Penny Lane ou autres. Ils ont une faculté avec leurs équipes à faire ce qu'on appelle l'onboarding des cabinets et à instaurer la pratique et l'utilisation de l'outil. Nous, en fait, on le trouvait tellement simple, notre outil, qu'on n'avait pas accentué notre force sur l'onboarding. Je veux dire, tu le mettais dans Teams, tu balançais tes données et tu pouvais lui parler, quoi. Il n'y a pas plus simple, en fait, en termes d'utilisation. Sauf que ce qu'on n'avait pas anticipé, c'est comment ils l'inscrivent dans leur mission de conseil, comment ils peuvent le proposer ou en proposer quelque chose aux clients. Et ça, c'est un inconvénient que je ressens dans beaucoup de cabinets, c'est qu'on voit beaucoup de choses comme des coûts immédiats, comme de la charge immédiate. On ne le voit pas comme un investissement sur le futur, en vue d'une rentabilité future, d'une fidélisation des clients et de quelque chose qui s'inscrit dans la durée.
Mais c'est ce que j'ai remarqué aussi un peu, je pense, le cordonnier le plus mal chaussé, où tu vas conseiller les entrepreneurs et les clients sur les investissements et toi, tu ne vas pas oser faire des investissements parce qu'il y a un risque, mais tu as une boîte. Donc, c'est normal de...
Tu sais, ça me fait penser à des confrères quand j'étais en loc meublé. Là, j'ai échangé quand même avec beaucoup de confrères qui avaient leur cabinet de manière plus, encore une fois, traditionnelle et standard. Et ce n'est pas péjoratif dans ma bouche, c'est juste pour expliquer. Et du coup, ils me disaient « Oh là là, et tout, j'ai plein de préviers à faire, j'arrive pas à les sortir » ou « J'ai plein de demandes, j'arrive pas à faire ». Je leur disais toujours « Mais pourquoi tu ne recrutes pas quelqu'un à vide ?» Parce que tant que tu ne l'auras pas recruté, tu n'auras pas la place pour faire l'exceptionnel. Tant que tu ne l'auras pas recruté, tes collaborateurs, ils n'auront pas envie de vendre de l'exceptionnel, ils n'ont pas le temps de le faire.
Et en plus, il y a un sujet aussi, si Michael Benheim nous écoute, sur le fait d'appeler ça de l'exceptionnel.
C'est parce que c'est comme ça que ça parle aux experts comptables en question.
Mais il y aurait un sujet sur le fait de dire, est-ce que ça ne serait pas des missions de conseil qui deviennent du récurrent, du quotidien.
Que tu peux proposer plus régulièrement parce que tu as la ressource, je suis tout à fait d'accord. Moi, j'ai un sujet sur lequel je veux aller, c'est prévention de santé du dirigeant, rechercher l'alignement entre ses valeurs, ses objectifs et l'accompagner là-dessus pour qu'il aille pas se prendre le mur et faire un burn-out, voire plus, parce que chez les dirigeants, les réactions, elles sont souvent plus fortes que chez les salariés.
La personne est souvent confondue avec l'entreprise et donc c'est si ça. L'entreprise va mal...
C'est ça. En fait, être entrepreneur, ça peut mettre des shoots d'adrénaline positif. Très fort, mais ça peut en mettre des très forts dans le négatif.
C'est montagne russe.
Donc en fait, il faut savoir le gérer, quoi. Et du coup, tout ça pour dire que les quelques experts comptables à qui j'avais dit ça, il y en a qui l'ont fait. Au bout de 3 mois, ils me disaient, en fait, il est déjà chargé à 100%. Donc la nature a l'horreur du vide, c'est une expression qu'on connaît tous. Donc de toute façon, il faut essayer, il faut se lancer. Ça, c'est la culture numérique aussi. De dire, vas-y, essaye. On a le droit à l'erreur, on a le droit de se planter, il n'y a rien qui est irrémédiable. Si aujourd'hui tu choisis tel outil pour faire tel truc, rien ne t'empêche de changer dans 2 semaines parce que l'outil ne correspond pas. Tu n'es pas obligé de trouver l'outil parfait tout de suite. Par contre, il faut que tu te laisses le temps d'essayer. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le projet Facture électronique, moi je suis une farouche militante de ce que défend le National et je le fais avec conviction et avec cœur. Si vous voulez le faire comme il faut se donner 18 à 24 mois. On ne peut pas le faire du jour au lendemain pour implanter quelque chose. Le temps que t'emportes les clients, que t'emportes les équipes, que tu mettes en place du changement, qu'il y ait des nouvelles offres qui se dessinent, etc., tu ne vas pas le réfléchir en 2 secondes. Et du coup, à l'origine, je voulais accompagner mes confrères et consoeurs là-dessus.
Et la techno, elle existe toujours pour potentiellement, je ne sais pas, genre dans 3, 4, 5 ans
Il y en a d'autres qui arrivent sur le marché et qui s'emparent du sujet autrement. Donc de toute façon, même si la techno existe toujours, si la réflexion est toujours là en elle-même, si demain on devait le refaire, on en a déjà parlé plusieurs fois, on ne le prendrait pas forcément de la même manière. Donc ça, c'est le propre du numérique aussi. Et puis regarde,
ChatGPT
est arrivé au moment où nous, on déposait le bilan. Tout ce qui est IA génératif comme ça, c'est arrivé à ce moment-là. T'as vu l'essor que ça a pris en 1 an. Aujourd'hui, on referait notre produit, on ne le ferait pas de la même manière. Les solutions qu'on avait identifiées pour faire notre IA conversationnelle, on irait peut-être prendre d'autres solutions qui existent maintenant et qui vont plus vite, en fait.
Au sujet de la facture électronique, tu es présidente de la commission numérique.
Ouais, en Pays de la Loire.
C'est ça. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton rôle, ce que tu fais, pourquoi cet engagement?
Alors, fin 2020, il y a une des listes qui se présentait au niveau du conseil régional Pays de Loire, où il y avait des personnes que je connaissais, qui est venue me parler du fait de m'engager au niveau de l'Orne. C'est quelque chose que j'avais déjà identifié comme étant une action que je voulais faire, puisque je m'étais déjà proposée d'ailleurs comme contrôleur de stage sur cette année-là. Parce que j'estime que quand moi j'ai été stagiaire, alors j'ai fait mon stage en Languedoc-Roussillon qui est maintenant Occitanie, mais peu importe, j'ai vraiment été hyper bien accompagnée. Enfin, j'en garde un super souvenir et j'avais toujours dit, on m'a accompagnée 3 ans, il n'y a pas de raison que moi je ne rende pas les 3 ans à un instant donné. Or, un mandat d'élu, c'est 4 ans. Donc, du coup, quand on m'a sollicité et puis qu'on est venu me dire, surtout pour tes compétences numériques, en fait, parce que ce serait bien d'avoir quelqu'un à la commission numérique qui prenne le relais d'Alexandra Brasset-Sabin, qui était présidente de cette commission avant moi, bah, j'ai dit OK. Ça allie plusieurs choses. Ça allie mon appétence pour le digital, la découverte de l'institution par l'intérieur, le fait de rendre ce que moi j'ai eu à un instant T. Donc OK. Et en fait, on a été élus. Et du coup, j'ai pris la présidence de la commission. On est en quoi ? On va être 2024. Oui, ça, c'était fin 2020. Enfin, on a été élus et mis en place.
Et ton rôle aussi de contrôleuse de stage, pareil, tu peux nous expliquer un peu en quoi ça consiste ? Peut-être qu'il y a des personnes qui ne sont pas encore en stage ou qui ne savent pas forcément ce que c'est.
Alors en fait, quand on fait le stage expert comptable qui est censé durer 3 ans, on a des obligations pendant cette période, du suivi de formation, de la rédaction de rapports semestriels à partir de la 2e année, et dont un qui sera la notice du mémoire qu'on déposera pour le diplôme expert comptable. Et puis, on a aussi ce qu'on appelle des fiches d'activité sur lesquelles on détaille les heures en fonction des missions qu'on réalise. Ça, c'est fait pour vérifier qu'en fait, la personne, elle prend de l'aisance, elle prend de l'ampleur, elle va sur des missions un peu plus compliquées, puisque à terme, ce qu'elle vise, c'est de pouvoir, comme on dit, visser sa plaque demain. Donc, il faut qu'elle ait expérimenté suffisamment de choses. Alors, en fait, pour vérifier, le mot contrôleur, il est fort, mais pour vérifier que toutes ces obligations sont remplies, faut quelqu'un qui puisse chapeauter tout ça pendant les 3 ans. Donc, c'est le rôle du contrôleur adjoint de stage. Et en fait, moi, j'y mets une dimension humaine aussi. Je suis présente pour les stagiaires. Certains ont eu des interrogations pendant leur stage, j'hésite pas à aller déjeuner avec eux s'il faut. S'ils veulent m'appeler, m'envoyer des mails parce qu'il y a des questions, ils savent qu'ils peuvent le faire. Et en Pays de la Loire, depuis quelques temps, on expérimente le fait d'être en binôme de contrôleurs avec un plus gros groupe de stagiaires. Et cette année, pour la première fois, puisque c'est la première fois que je suis en binôme, on a réuni l'ensemble de nos stagiaires sur 2 demi-journées à peu près, pour aussi leur permettre de parler entre eux, de se connaître entre eux, de connaître un peu les spécificités de chacun. Parce que quelque part, ils vont aussi tisser leur réseau pour demain de confrères à qui faire appel quand ils auront besoin. Donc... ça a une dimension, un peu de grande sœur de la profession. On est là pour faire qu'ils réussissent et surtout qu'ils ne se laissent pas déborder et qu'ils finissent dans les 3 ans, parce que c'est déjà long, 3 ans. Donc, moi, je fais tout pour qu'ils rendent les choses dans les délais et qu'ils ne prolongent pas.
Suite au dépôt de bilan de la start-up, qu'est-ce que tu as fait ? Est-ce que tu n'as pas eu peur de t'ennuyer ? Ça devait t'occuper pas mal de
Alors,
temps.
Ça m'occupait pas mal. C'était hyper enrichissant parce que c'était plein de choses qu'on ne connaît pas. Tant qu'on n'a pas été dedans. J'avais laissé mon cabinet un peu de côté durant cette période. Donc on va dire depuis l'année dernière, puisque ça fait 1 an à peu près, il y a eu la phase digestion de l'échec. Il n'y a pas de regret. Il y a des analyses qui étaient à faire, qu'on fait au fur et à mesure. Il y a le fait d'accepter qu'on a pu se planter. Ce n'est pas toujours évident. Enfin bon, entre mes 400 candidatures en sortant de l'école, les cabinets que j'ai quittés au fur et à mesure, et puis là, le dépôt de bilan, je pense que je sais être résiliente et rebondir sur les choses qui se passent. Mais surtout, il a fallu que je dise, je fais quoi de mon cabinet ? Donc j'ai testé pas mal de choses. Maintenant, j'en suis à la phase où je fais le tri, parce qu'il faut que j'aie une communication claire. Et comme je ne suis pas sûre d'y arriver toute seule, on n'a pas de formation là-dessus au niveau de nos diplômes, là, j'utilise mon CPF que je n'ai jamais utilisé depuis que j'étais salariée. Et j'ai déclenché une formation et un coaching en stratégie et marketing digital, du coup, qui va me servir et à clarifier ma position, mon offre, et surtout derrière à la communiquer.
Donc, ton offre, j'allais te poser la question sur est-ce que t'as, enfin, quelle était la répartition des activités dans ton cabinet, puisque je suppose que tu n'as pas à faire que de la compta. Mais ce n'est pas encore défini pour le moment.
Alors déjà, 30% d'attestation de compte, ça ne suffit pas. Je suis d'accord avec toi pour en faire quelque chose de stable en termes de rémunération. Pour autant, je n'irai pas sur la tenue. Donc, je reste campée sur mes positions, sur le fait de permettre aux dirigeants de faire sa gestion et que ça contribue à la comptabilité. Du coup, QuickBooks s'étant arrêté fin décembre, j'ai laissé le choix à mes clients. Ça, c'était aussi, c'est ma marque de fabrique, hein. Je suis pas quelqu'un qui impose. Et s'il faut que je fasse du one-to-one, je le fais. Je leur ai laissé le choix entre plusieurs outils et ils ont tous pris PennyLane. Donc, je viens de basculer PennyLane et mon cabinet et les clients, du coup. Donc là, on va tous apprendre à bosser dessus ensemble et à avancer ensemble. Et du coup, bah, ça va faire partie de mon offre. Là, par contre, je n'irai pas me diversifier sur plusieurs outils. Ce sera PennyLane pour les gens qui veulent travailler avec moi. Et je vais le systématiser pour gagner du temps sur cette partie production de déclaration, pour pouvoir garder du temps en face sur la partie accompagnement du dirigeant en tant que tel. Encore une fois, alignement, valeur, objectif, pour pas aller dans le mur. Après, s'ils veulent grossir fois 100 et que c'est dans leur valeur, il n'y a pas de souci, j'accompagne aussi. Ce que je veux pas, c'est les mettre dans un mouvement avec une forme d'obligation sociale, de réussite par la croissance obligatoire, quoi.
Et surtout que, en plus, tu peux, enfin, forcément, souvent quand on parle de réussite ou de croissance, il y a le côté financier. Mais ce dont on ne parle pas, c'est qu'il y a aussi d'autres indicateurs, notamment, bah, on en parlait en off, je sais pas, la satisfaction client, le turnover, ou même des fois bah, le burn-out du dirigeant. Mmh. Ok, j'ai fait x2 le chiffre d'affaires, mais c'est quoi la ressource?
Si j'ai divorcé et que je ne vois plus mes enfants, il est où l'intérêt, quoi?
Est-ce que c'est ça la réussite? Enfin, chacun a sa propre définition.
Du coup, j'aimerais inclure cette dimension-là en plus, sachant qu'il y a encore plein d'autres choses à inclure. On a des spécialistes dans notre région de tout ce qui est RSE, et j'ai la chance de les compter parmi les gens avec qui j'échange régulièrement. Il y a des choses qui vont être à prendre en compte. Par contre, je connais mes limites. Là, ce n'est pas des sujets sur lesquels je suis une spécialiste aujourd'hui. Donc, par le passé, j'ai déjà eu des gens qui m'ont sollicité. Je n'hésite pas à les renvoyer vers des confrères qui ont des spécialités que moi, je n'ai pas. Et surtout, ce que j'aimerais développer, c'est le fait de bosser en collaboration. C'est-à-dire, s'il y a un client qui veut m'avoir, moi, comme conseil, parce qu'il m'a choisi, parce qu'il y a un feeling, etc., mais qu'à un moment donné, il y a un besoin sur quelque chose que je ne maîtrise pas, je sais où aller chercher la ressource, qu'elle soit expert comptable spécialisé ou qu'elle soit ailleurs. Je sais où aller la chercher. J'ai la chance et j'ai la facilité à me faire un réseau de gens qui partagent les mêmes valeurs humaines que moi, etc. Et qui sont des gens qui sont experts, qui sont super pros. Donc en fait, un client qui a un besoin demain, c'est rare que je n'ai pas dans mon réseau quelqu'un qui peut satisfaire ce besoin en fait.
Ben c'est ça aussi, alors je ne sais pas si c'est présent chez tous les experts comptables, mais le fait de se créer un écosystème, et ce n'est pas seulement, en gros, l'objectif et la valeur ajoutée de l'expert comptable, ce n'est pas juste de produire ou de conseiller, c'est aussi des fois de mettre en relation avec les bonnes personnes.
Dans ma stratégie, par exemple, je ne fais pas la paye. Alors pour l'instant, j'ai que 2 ou 3 clients qui sont concernés par les payes, parce que j'ai beaucoup d'indépendants consultants qui sont sur des marchés de niche. Voilà, mais du coup, il y a des choses qui existent. Il y a soit des confrères qui font de la paye, soit du coup des plateformes. Enfin voilà, à chaque fois, c'est toujours pareil. Je leur mets le panel de solutions en face et je leur dis qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce qui correspond à votre besoin et on va adapter mon intervention en fonction. Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui utilisent PayFit. Pour pas les citer. Après, je leur ai parlé du titre emploi 1 de l'URSSAF, mais je leur ai bien dit que c'est quand même bizarre d'avoir des choses gratuites qui sont contrôlées par la même personne. Voilà. Maintenant, je ne peux pas ne pas leur dire. Enfin, c'est mon devoir de conseil de leur dire qu'il y a un truc qui existe et qui est gratuit, quoi. Donc, je fais pas le juridique non plus. Par contre, ce qu'ils savent, c'est que si demain ils ont une problématique spécifique, soit en social, soit en juridique, je peux être le troisième homme, j'allais dire, la troisième femme autour de la table, et du coup, la discussion n'en sera que plus riche qu'on soit trois autour de la problématique. Et je pense que ma valeur ajoutée, elle est plus sur ce moment-là, qui va être de challenger une décision qui serait à prendre, d'échanger avec un avocat, que d'être sur le fait de faire du bulletin de paye, quoi.
Et pour le moment, tu es seule. Est-ce que c'est un choix? Est-ce que c'est quelque chose? Enfin, est-ce que tu prévois dans l'avenir d'embaucher ou pas du tout?
Si je dis oui, j'ai alors plein de CV parce que j'en ai déjà en plus.
Non, mais je me disais par rapport à ce que tu, je sais plus à quel moment t'évoquais ça. Bah, ou je crois que c'était peut-être en off de potentiellement d'embaucher des personnes. Mais en fait, tu pourrais aussi travailler avec des personnes, enfin en collaboration comme tu le dis, enfin avec des personnes qui sont aussi consultantes que tu fais intervenir sur des missions.
Alors ça, c'est déjà le cas. Ouais. Je travaille déjà comme ça aujourd'hui. Jusqu'à maintenant, j'avais dit pas de salariés, pas de locaux. Pas de locaux, ça tient à ma satisfaction client. C'est parce que j'estime que je rends un meilleur service quand je vais chez le client, quand je suis dans son environnement à lui, dans son contexte, dans sa structure, que si c'est lui qui vient dans mes bureaux. Ça a un autre aspect, c'est que je lui fais pas supporter mes charges fixes sur les honoraires et que je facture vraiment ma valeur ajoutée, en fait. En tout cas, c'est ma réflexion à aujourd'hui. Hein. J'ai jamais dit que je changerais pas d'avis, mais c'est ma réflexion à aujourd'hui. Et pour ce qui est des salariés, comme je suis quelqu'un qui est pas mal dans l'empathie et tout en termes de management, c'est aussi quelque chose qui a contribué à mon épuisement sur le dernier job salarié. Du coup, pour l'instant, j'ai un peu des craintes sur le fait de reprendre une équipe et de me retrouver à gérer du monde. Pas que j'aime pas les gens, mais peut-être des fois je les aime trop. Et puis l'autre aspect, c'est qu'à aujourd'hui, j'ai énormément besoin de mon niveau de liberté sur à quelle heure je commence à travailler de manière efficace, etc. Et je pense que quand on manage une équipe, il y a une notion d'exemplarité sur certains aspects qu'aujourd'hui, j'ai pas envie de m'imposer. Donc je dis pas jamais, chose que j'aurais dit il y a 3-4 ans. Là, je dis pas jamais, je dis juste pas tout de suite.
C'est du temps aussi à consacrer, enfin en termes de management. Si tu veux bien le faire, tu vas pas dire ah ben en fait je vais faire exactement ce que je fais aujourd'hui, mais en plus faut que je manage quelqu'un. Bah en fait non, c'est à dire qu'il faut que tu te dégages du temps et donc d'autres activités que tu fais actuellement.
C'est ça. Et puis j'ai conscience aujourd'hui, chose que j'avais pas il y a 4 ans, que mes besoins financiers sont peut-être pas ceux que j'avais imaginés. Là, du coup, très clairement, on a réduit beaucoup nos besoins. Enfin, j'ai perdu de l'argent dans l'aventure start-up et le budget à la maison, il n'est pas le même que ce qu'il a été par le passé. Maintenant, personne n'en est mort. Je pense qu'on est revenu à des choses plus essentielles et quelque part, dans le cadre d'une démarche RSE, c'est peut-être pas plus mal. Enfin, voilà, ça remet les pendules à l'heure sur la valeur des choses. Est-ce que demain, j'ai envie de retomber dans quelque chose où j'irai à toujours plus? Je suis pas sûre. Par contre, ce que je sais, c'est que j'ai envie de vivre en direct l'aventure entrepreneuriale de mes clients et que si je me retrouve à manager moi une équipe, je serai moins disponible pour mes clients sur cet aspect-là. Donc pour l'instant, mon cœur balance, on va dire.
Et qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton métier? Enfin, dans ton métier, dans tes métiers, dans ce que tu fais?
Les gens. Le fait d'échanger avec des gens, de partager des choses. De me dire, hier j'ai eu un coup de téléphone de quelqu'un qui démarre son activité en auto-entrepreneur. Comme elle arrive d'Espagne, je lui ai expliqué c'est quoi les limites pour la TVA, pour le micro, etc. Et puis, on commence à échanger sur un atelier qu'elle a proposé. C'est quelqu'un qui fait de l'animation pour les gens, qu'elle a proposé en binôme avec quelqu'un. Toutes les deux devaient apporter des clients à cet atelier. Elle en a apporté 7, l'autre en a apporté 1. Et elles ont animé l'atelier à 2. Et aujourd'hui, l'autre personne lui dit 50% de l'animation. Et du coup, si tu veux, on a discuté de ça parce qu'on parlait des limites du micro et du chiffre d'affaires qu'elle allait intégrer dedans. Donc elle me demandait comment je fais, parce que là je vais lui en rétrocéder. Je lui dis écoute, rétrocession, je suis pas la cador, je vais juste vérifier dans les textes. Je lui dis par contre, sur le principe économique de ton activité, quoi, tu veux continuer de travailler avec cette personne qui finalement a profité de toi et de tes 7 clients pour toucher, enfin pour te demander 50%. Elle me dit, non, je ne veux pas continuer à bosser avec elle. Je dis, ok. Deuxième point, tu as signé un contrat qui dit que c'était 50%? Non. Je dis, du coup, j'ai envie de te dire, là, vas-y, négocie, quoi. Parce que ce n'est pas 50% qu'elle mérite. Si on raisonne sur l'apport de clients en plus de l'animation, ce n'est pas 50% qu'elle mérite. Et en fait, je me dis, je suis plus utile à discuter de ça avec ma cliente qu'à discuter avec elle de « Oulala, t'as dépassé le chiffre d'affaires qu'il fallait faire, t'es plus en franchise de TVA, maintenant faut passer à la TVA et je vais te facturer des honoraires pour la TVA. » Enfin, tu vois, le truc, et du coup, c'est pour ça que je te dis, c'est les gens. Parce que quand tu discutes avec eux, quand tu t'intéresses à leur activité, quand tu vas plus loin, il y a forcément quelque chose qui émerge sur lequel ils vont avoir besoin de toi.
Est-ce que tu aimes le moins ?
La compta.
Est-ce que tu es fière de ton parcours ?
Pas tout le temps, parce que j'ai tendance à toujours regarder plus haut plutôt que de regarder d'où je suis partie. Quand je le raconte, là, je me dis « Ah ouais, quand même, c'est pas mal. C'est une belle histoire. » Et puis, quand y a des personnes qui viennent s'adresser à moi en me disant « Ah bah si, je suis sûre que tu peux m'aider, être mon mentor ou quoi que ce soit. » Et je dis, sur le coup, je dis non. Et puis après, je me dis « Bon, peut-être. » Mais j'ai en fait, il y a un truc que je dois toujours challenger, moi, c'est j'ai toujours un plafond de verre. Enfin, il y a toujours quelque chose sur lequel il faut que j'aille un petit peu plus loin, tu vois, que je dépasse ma zone de confort. Et j'ai un gros syndrome de l'imposteur parce qu'il y a beaucoup de choses que j'apprends, moi, au fur et à mesure, sur lesquelles je n'ai pas une certification ou quelque chose. Là, il y a des personnes qui m'ont dit « Gaëlle, tu devrais faire du coaching, je n'ai pas envie d'aller me faire certifier. » En plus, je ne suis pas dans la mentalité où je vais aider les gens à se questionner. Je suis plutôt à leur aller pousser moi et à leur dire ce que moi j'aurais fait. Je pense que mentor est plus adapté. J'ai envie de prendre de la hauteur sur l'activité des clients, donc intégrer des conseils d'administration, ça me disait bien, mais je savais pas si j'étais légitime. Du coup, je me suis fait certifier par la formation qui est proposée par l'association des femmes experts comptables, mais pour l'instant, j'ai pas encore poussé l'offre, tu vois, comme si je me sentais pas légitime. Donc ouais, je vais pas dire que je suis pas fière de mon parcours, maintenant il y a encore plein de choses à faire, quoi.
Et ton équilibre vie pro-vie perso, alors comment tu gères ? Est-ce que tu es quand même peut-être plus attentive à ça après tes deux burn-out ?
J'essaye d'y être plus attentive.
Maintenant, déjà, quand on commence par j'essaye, c'est pas
travail.
Bon signe.
Non, mais c'est un travail de tous les jours, en fait. Parce que je suis tellement passionnée par ce que je fais, par ce que je découvre, par les nouvelles choses à apprendre. J'ai besoin de toucher à plein de choses, de m'intéresser à plein de choses. Sinon, j'ai l'impression que ma journée, elle servit à rien. Donc... Le truc, c'est que y a des choses, je le vois plus comme du développement personnel que comme du travail, même si c'est en lien avec du travail. Donc, j'ai envie de te dire, pour l'instant, je suis bien comme je suis, au niveau où je suis. Faut juste que j'arrive à stabiliser mon chiffre d'affaires et avoir une forme de sérénité plus appuyée sur la REM. Mais j'irai pas challenger des REM de fou pour le plaisir. Moi, ce qu'il va falloir, c'est que les activités sur lesquelles j'accompagne mes clients soient des activités qui me portent en fait et qui me font envie et que les gens avec qui je bosse me fassent envie. Enfin, tant que j'ai ça, je suis contente.
Et c'est quoi tes projets ? Enfin, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les mois, les années qui arrivent ?
De réussir justement à faire cette prise de hauteur et de faire comprendre aux dirigeants qu'un expert comptable, c'est pas juste quelqu'un qui va faire les déclarations comme il faut au centime. Parce qu'on parle beaucoup des experts comptables qui véhiculent cette image, mais il y a aussi les clients qui gardent cette image et qui n'arrivent pas à venir demander certaines choses aux experts comptables parce qu'ils n'imaginent pas que. Donc je pense que le boulot, il doit se faire dans les deux sens. Et moi, j'aimerais juste qu'on arrive à m'identifier pas que comme expert comptable, ou en tout cas expert comptable, mais pas que, comme je mets sur mon profil LinkedIn, et qu'on vienne bien me chercher, soit pour que je vienne challenger le dirigeant, soit pour le soutenir, mais pour la dimension humaine et l'expérience que je peux apporter, en fait.
Comme un partenaire des dirigeants.
Exactement.
Est-ce que s'il y avait des choses à faire, tu les ferais différemment ?
Non, je les ferais pareil. Elles ont toutes eu leur raison d'être et elles ont toutes véhiculé un apprentissage, donc je garde les mêmes.
Et dernière question, mais pas des moindres, si tu avais un conseil à donner à la Gaëlle qui a 20 ans, donc peut-être qu'elle... Non, tu galérais... Non, t'étais en DECF, je pense.
DECF, ouais.
Qu'est-ce que tu lui dirais ? Est-ce qu'elle s'imagine tout ce qui va lui arriver ?
Déjà, elle savait qu'elle avait la bougeotte, donc qu'elle bougerait géographiquement loin de ses parents et tout, elle le cherchait, donc elle savait qu'elle le ferait. Est-ce qu'elle savait qu'elle irait aussi haut dans une pyramide de cabinet avec une croissance aussi grosse pour le dernier où j'ai été et qu'elle oserait aller sur des sujets où elle n'était pas sûre de maîtriser ? Je ne pense pas, mais elle l'a fait, elle l'a bien fait. Donc, quelque part, fie-toi plus à ton intuition. En fait, il y a des fois où je n'ai pas assez écouté mon intuition et où j'aurais dû. Et ça, c'est quelque chose sur lequel je suis en train de m'ouvrir parce que je me suis fait coacher sur le sujet, en fait.
C'est un bon conseil, je pense, pour tous ceux qui nous écoutent. Merci beaucoup, Gaëlle. Et puis,
avec plaisir,
à très
Julie.
Bientôt.
À bientôt.
Félicitations, tu as été au bout de cet épisode. Aide-moi à faire connaître le podcast en choisissant parmi ces trois options. Le plus rapide d'abord, c'est de me donner 5 étoiles sur ton appli de podcast préféré. Le second, c'est d'écrire un gentil commentaire pour m'encourager et pour faire plaisir à l'algorithme. Et bien sûr, tu peux aussi en parler autour de toi. Enfin, le top du top, ça serait forcément de faire les 3. Pour découvrir le prochain épisode, je te donne rendez-vous dimanche prochain à 10h.